L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Ce fut par une sinistre nuit de novembre que je parvins à mettre un terme à mes travaux. Mes yeux sortaient de leurs orbites en contemplant la créature. J'avais entrepris de mettre au point un homme de stature gigantesque. Il avait plus ou moins 8 pieds de haut et sa carrure était en proportion de sa taille. Pendant plusieurs mois, j'avais cherché et préparé mon matériel. Les salles de dissection et les abattoirs m'avaient fourni la plupart des matériaux. À présent, avec une anxiété qui me rapprochait de l'agonie, je rassemblais autour de moi les instruments qui devaient donner la vie et introduire une étincelle d'existence dans cette matière inerte qui gisait à mes pieds. Il était 1h du matin et la pluie frappait lugubrement contre les vitres. Ma bougie allait s'éteindre lorsque tout à coup, au milieu de cette lumière vacillante, je vis s'ouvrir l'œil jaune stupide de la créature. Elle se mit à respirer et des mouvements convulsifs lui agitèrent les membres. Comment pourrais-je décrire mon émoi devant un tel prodige? Comment pourrais-je dépeindre cet être horrible dont la création m'avait coûté tant de peine et tant de soin? Ses membres étaient proportionnés et les traits que je lui donnais, quelques beautés. Quelques beautés, grand Dieu! Sa peau jaunâtre tendue à l'extrême dissimulait à peine ses muscles et ses artères. Sa longue chevelure était d'un noir brillant et ses dents d'une blancheur de nacre. Mais ces avantages ne formaient qu'un contraste plus monstrueux avec ses yeux stupides dont la couleur semblait presque la même que celle blême des orbites. Il avait la peau ridée et les lèvres noires et minces. J'avais pendant 2 ans travaillé sans répit pour donner la vie à un corps inanimé. Et pour cela, j'avais négligé mon repos et ma santé. Ce but, j'avais cherché à l'atteindre avec une ardeur immodérée. Mais maintenant que j'y étais parvenu, la beauté de mon rêve s'évanouissait et j'avais le cœur rempli d'épouvante et de dégoût. Incapable de supporter la vue de l'être que j'avais créé, je sortis de mon laboratoire et longtemps je tournais en rond dans ma chambre à coucher sans trouver le sommeil. Enfin, la fatigue l'emporta et je me jetai tout habillé sur mon lit, mais pour être assailli par les rêves les plus terribles. Je crus voir Elisabeth, débordante de santé, se promener dans les rues d'Ingolstadt. Charmé et surpris, je l'enlaçai, mais alors que je posais mes lèvres sur les siennes, elle devint livide, comme la mort. Ses traits se décomposèrent et j'eus l'impression que je tenais entre mes bras le cadavre de ma mère. Le linceul l'enveloppait et à travers les plis, je vis grouiller les vers de la tombe. Je me réveillai avec horreur. Une sueur glacée me couvrait le front, mes dents claquaient et j'étais saisi de convulsions. La lumière jaunâtre de la lune se glissa à travers les croisées de la fenêtre et j'aperçus le malheureux. Le misérable monstre que j'avais créé. Ses yeux, si je puis les appeler ainsi, étaient fixés sur moi. Ses mâchoires s'entr'ouvrirent et il fit entendre des sons inarticulés tout en grimaçant. Peut-être parlait-il, mais moi je ne l'entendis pas. Une de ses mains était tendue vers moi, comme pour me retenir. Oh, quel mortel pourrait supporter l'horreur d'une telle situation ? Une momie à qui on rendrait l'âme ne pourrait pas être aussi hideuse que ce misérable. Dante lui-même n'aurait pu imaginer un tel monstre. Je pris la fuite et me précipitai vers les escaliers. Nous sommes le 3 juin 1816 dans la villa Diodati sur les bords du lac Léman en Suisse. Il est 23h30. La jeune Marie Godwin repose les feuillets noircis d'encre qu'elle tenait entre ses mains. Elle lève les yeux et contemple l'assemblée muette qui se tient devant elle et la fixe. Pendant quelques secondes, pas un murmure, pas une respiration ne vient troubler le point final de sa lecture. On n'entend plus que la tempête qui se déchaîne dehors. La pluie claque sur les feuilles des arbres qui entourent la villa et le vent émet un mugissement lugubre en venant s'engouffrer dans la cheminée du salon. Une ambiance toute propice à la lecture de ce récit macabre. Il est alors 23h30 et c'est l'heure H de mon récit. Marie est incroyablement belle dans sa robe mousseline blanche. Ses longs cheveux bruns font ressortir sa peau diaphane et ses grands yeux sombres et mettent une lueur étrange dans l'obscurité du grand salon que seules quelques chandelles viennent perturber. En cet instant, elle ressemble à un fantôme. Elle est tout aussi troublante que la lecture qu'elle vient de donner. Mais à tout juste 19 ans, Marie ne réalise pas l'aura mystérieuse qui émane d'elle. Elle esquisse un sourire timide devant cet auditoire saisi de stupeur, dont les yeux sortent de leurs orbites un peu comme le créateur de son monstre. Et puis, rompant le silence, elle s'excuse de sa voix douce. Oh, « je n'ai écrit que cela pour le moment. » « Oh, quel talent, ma chère, quel talent !» rugit soudain Lord George Byron, dont le visage s'est ranimé. Autour de lui, le salon semble aussi reprendre des couleurs. Étrangement, la lueur des chandelles paraît plus forte. Est-ce parce qu'une nouvelle étoile est née ? Byron se tourne vers ses hôtes, dont les visages reprennent vie à leur tour, et tous se mettent à applaudir à tout rompre. Non, Byron est toujours exubérant, certes, exalté même, mais cette fois, il est sincèrement enthousiaste. Et il faut l'admettre, agréablement surpris par Marie. L'auteur talentueux qui l'a convié dans sa villa, c'est Percy Shelley, et non cette petite créature étrange qui l'accompagne. Qui est Marie Godwin ? Cela fait 2 semaines qu'il l'observe, la taquine, la provoque même, mais qu'il ne parvient pas à cerner sa personnalité. Derrière ces belles manières de petite fille bien née, la sagesse et l'intelligence de ses propos sont calme olympien. Marie est le symbole même de l'anticonformisme. Il connaît son histoire. Son père est un célèbre romancier et un philosophe radicaliste. Sa mère, qui est morte quelques jours après sa naissance, était une pionnière du féminisme anglais. Marie a donc grandi au milieu des livres et des salons philosophiques tenus par son père dans leur maison. C'est sans doute là qu'elle a rencontré le jeune et beau poète Percy Shelley. On dit qu'ils sont tombés fous amoureux, mais que le père de Marie s'est fortement opposé à leur relation. Ils se sont donc enfuis, laissant derrière eux la jeune épouse, enceinte de Percy, et ses 2 enfants. Aujourd'hui, les sulfureux amants ont un petit garçon, William, et Marie se fait appeler illégitimement Marie Shelley. « Oh, ma chère, vous devriez écrire !» poursuit Byron, extatique. « Vous nous avez tous saisis ce soir, oh, que dis-je ? Vous nous avez hantés !» Marie est flattée. On ne reçoit pas tous les jours les encouragements du célèbre Lord Byron, même s'il est l'une des personnalités les plus contestées d'Angleterre. Rappelons-le, si le grand poète vit en reclus dans une grande villa humide en Suisse, c'est parce qu'il a été chassé de son pays. On l'accuse d'inceste avec sa sœur et de bisexualité. Il n'en est pas moins une figure littéraire reconnue qui, déjà de son vivant, marque les esprits et bouleverse les courants littéraires. Marie ne s'attendait pas à ce que ces quelques lignes, griffonnées en quelques jours sur son cahier, retiennent à ce point l'admiration de son auditoire. Cela fait des années qu'elle écrit, mais des pensées, de petites nouvelles qu'elle garde évidemment pour elle. Quand on grandit au milieu de philosophes, de poètes et de romanciers, il faut être talentueux ou savoir rester modeste. Aussi n'a-t-elle jamais vraiment osé se lancer. Et puis, il y a quelques jours, après une énième journée de pluie, ce fougueux Lord Byron a lancé un défi littéraire. Il faut dire que nos amis vivent un été froid et humide au bord du lac Léman. Ils passent leur journée enfermés dans la villa, à lire des romans fantastiques à la mode, comme Fantasmagoria. Et à la nuit tombée, ils s'amusent à se faire peur en se racontant des histoires de revenants. Ou ils écoutent le docteur John Polidori, médecin personnel de Byron, parler d'expériences scientifiques et anatomiques à vous glacer le sang. Alors, quitte à être plongé dans cette ambiance humide et mortelle, Lord Byron s'exclame un soir « Oh les amis, à ne plus mettre le nez dehors, je commence à m'ennuyer, à périr. Je vous propose donc de mettre à profit ce séjour sinistre pour faire un petit jeu. Nous allons chacun écrire une histoire à faire peur, une histoire de fantôme. Et celui qui écrira l'histoire la plus terrifiante gagnera le défi. » Ce soir-là, Byron ignore évidemment que son défi va donner naissance à 2 chefs-d'œuvre, 2 précurseurs de la littérature de science-fiction. Au début, Marie ne sait pas quoi écrire. Percy et Byron, les vrais écrivains, sont évidemment bien plus inspirés qu'elle. Sous l'influence de Fantasmagoria, ils échangent leurs idées sur des histoires de démons, de fantômes et de morts vivants. Mais elle, Mary Godwin, jeune maman insignifiante et timide, que va-t-elle écrire ? Eh bien, c'est dans une discussion avec le brave docteur Polidori, le médecin de Byron, que Mary va trouver l'inspiration. Par une soirée tout aussi sinistre que les précédentes, dans le grand salon humide de la Villa Diodati, John Polidori se lance dans une explication passionnée des expériences d'un certain Luigi Galvani. Le physicien et professeur d'anatomie italien est parvenu à contracter les cuisses d'une grenouille morte en lui administrant une décharge électrique. Polidori raconte aussi les spéculations d'Erasmus Darwin sur la possibilité de ranimer la manière morte grâce à des impulsions électriques. Mary écoute, bouleversée. Mais si son regard est brillant et fiévreux, ce n'est pas d'épouvante, mais de fascination. Depuis son plus jeune âge, il semblerait que la douce Mary entretienne un rapport étrange avec la mort. Elle se croit responsable de la mort de sa mère, survenue quelques jours après sa naissance. Elle voue depuis un culte étrange à la tombe de cette dernière, faisant du cimetière de Saint-Pancras sa promenade préférée. Plus tard, c'est devant la tombe de sa mère qu'elle donne secrètement rendez-vous à Percy Shelley. On raconte même que c'est sur la pierre tombale qu'elle lui a offert sa virginité. Elle s'enfuit ensuite avec Percy et elle tombe enceinte. Mais leur petite fille n'est prématurée de 2 mois et ne survit pas. Mary tombe alors dans une grave dépression. Les visions de son bébé mort la hantent. Aujourd'hui, le couple a un petit garçon, William, qui a su mettre un baume sur sa douleur, mais elle continue de faire d'atroces cauchemars. On peut ainsi dire que la grande faucheuse a toujours tenu compagnie à Mary. Au gré des étapes importantes de sa vie, elles ont tissé un lien étroit, fait de tristesse, de désespoir, mais aussi d'attirance et d'inspiration. Les révélations du docteur Polidori sur la possibilité d'un retour de la mort à la vie vont donc trouver un fort écho chez Mary. Ce soir-là, après s'être excusé auprès des hôtes de la Villa Diodati, sans doute après avoir ingurgité du laudanum, supposé l'aider à dormir, Mary va faire un rêve étrange. Elle racontera ceci. « Je vis l'étudiant blême des arts impies s'agenouiller à côté de la chose qu'il avait créée. Je vis le fantasme hideux d'un homme se lever, puis, par le travail de quelques machines puissantes, montrer des signes de vie et bouger en un mouvement malaisé et à moitié vivant. Il faut que cela soit effrayant, car l'effet de toute entreprise humaine, se moquant du mécanisme admirable du créateur du monde, ne saurait qu'être effrayant au plus haut point. » Mary se réveille en sueur, épouvantée, mais transportée. Elle enfile son peignoir de soie et s'assied devant son petit secrétaire d'acajou. Elle allume une chandelle, puis, brûlée par l'inspiration, commence à écrire frénétiquement ce qu'elle pensait être au début une nouvelle. Quelques heures plus tard, elle pose enfin sa plume. Il fait jour à présent, et elle souffle sur la chandelle à moitié consumée. Son premier réflexe est de trouver Percy pour lui faire lire son travail. Percy se plonge dans le cahier de Mary, silencieux, happé par le récit inédit et macabre. Quand il lève à nouveau les yeux vers Mary, son regard est admiratif. L'histoire est brillante et le style excellent. On dira bien des choses de Percy. Fils de baronnet, ayant fait ses études au prestigieux collège d'Eton, puis à l'université d'Oxford, son comportement provocateur a pourtant fait de lui un paria et lui a valu un renvoi de l'université. Scandaleusement athée, végétarien pour raison éthique, vivant hors des conventions, ses contemporains disaient de lui qu'il était le diable. Il a été admiré pour ses écrits révolutionnaires et libertaires, mais surtout poursuivi par les autorités et contraint de fuir toute sa vie. Devenu adolescent, il séduisait les jeunes filles et les femmes comme on cueille des fleurs des champs. Mari infidèle, père absent. Il a abandonné sa femme Harriet encore enceinte et son enfant pour vivre avec Mary, enceinte, elle aussi. Adepte de l'amour libre, Percy a également été un amant volage et immoral, allant jusqu'à tromper Marie avec la demi-sœur de celle-ci. Mais en dépit de tout ce qu'on a pu lui reprocher, Percy Shelley s'est révélé être un compagnon intellectuellement stimulant, ouvert, désintéressé et de bons conseils. Aussi, quand sa jeune compagne lui présente l'ébauche de sa première nouvelle, il se montre dithyrambique et encourage chaleureusement sa jeune amante à poursuivre son récit et sa carrière. Byron aussi a senti. Byron a compris. Cette Mary Godwin ou Mary Shelley, peu importe, cette femme aux airs de petite fille ingénue sera un grand écrivain et fera parler d'elle bien davantage que son Percy Shelley, pourtant déjà célèbre. Et il a visé juste en cette soirée de 1816 sur le lac Léman. Car cette nouvelle effrayante, rédigée à la hâte par une jeune fille de 19 ans, est l'ébauche de ce qui deviendra bientôt un chef-d'œuvre de la littérature gothique anglaise du XIXe siècle. Mieux, on dit aujourd'hui qu'il est le premier livre de science-fiction au monde à avoir été écrit. Le roman de Frankenstein, où le Prométhée moderne est né. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que Lord Byron ne se doutait pas que deux chefs-d'œuvre naîtraient de ce concours littéraire macabre lancé un soir de pluie dans la Villa Diodati. Aujourd'hui, nous connaissons tous l'histoire du docteur Frankenstein. Mais ce que beaucoup ignorent, en revanche, c'est qu'un deuxième chef-d'œuvre va naître de ce séjour. Et c'est le docteur Polidori qui en sera l'auteur. Enfin, pas complètement. George Byron annonce un soir « J'ai trouvé mon histoire, les amis. Je vais écrire une nouvelle sur un vampire. » Lord Byron se tait, laissant s'installer le suspense et l'interrogation chez ses hôtes. Percy Shelley intervient enfin, perplexe. « De quoi parlez-vous donc, mon ami? Qu'est-ce qu'un vampire ?» Eh bien, j'ai découvert dans mes livres quelques légendes intéressantes issues du folklore oriental. Voyez-vous, le vampire est tout à fait fascinant. Il s'agit d'une créature mi-homme, mi-démon, qui vit la nuit et dort le jour car elle fuit la lumière. Et pour se nourrir, elle boit le sang de ses victimes. Ravi, Byron sent ce léger courant d'air se glisser dans le cou de ses invités. Ah, il a produit son petit effet. Pourtant, il ne terminera pas cette nouvelle. Marie lui a-t-elle volé la vedette avec son histoire de monstre fabriqué à partir de cadavres? En tout cas, cette histoire de vampire aurait pu définitivement tomber dans l'oubli si le docteur Polidori, en bon secrétaire, n'avait pas conservé les feuillets du poète et terminé le texte. Son héros, Lord Ruthven, sera considéré comme le premier vampire tel que nous le connaissons aujourd'hui dans une œuvre de fiction. Lord Ruthven est séduisant, magnétique, dédaigneux, manipulateur. Bizarrement, sa description correspond à un personnage que nous connaissons bien, Lord George Byron lui-même. Une petite revanche bien méritée pour ce pauvre Polidori, souffre-douleur constamment rabaissé par son patient. Et pour comble de l'ironie, l'œuvre de John Polidori sera encensée par la critique et préfigure même le célèbre Dracula de Bram Stoker qui paraîtra un siècle plus tard. Ainsi, le grand Byron sera-t-il doublement perdant à son propre défi d'histoire de fantôme.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte l'heure H de Mary Shelley. Une histoire à vous glacer le sang. Un laboratoire rempli d'organes humains et d'animaux, une créature morte qui revient à la vie. Je vous raconte ce moment où une jeune fille de 18 ans a tout réuni pour créer un des plus grands romans de science-fiction de tous les temps, Frankenstein ou le Prométhée moderne. Frankenstein. Beaucoup croient encore qu'il s'agit d'un monstre bête et hideux de 2 mètres de haut, au teint vert-gris et au front couvert de grosses cicatrices. Or, il n'en est rien. D'abord, Victor Frankenstein est un scientifique, le docteur Frankenstein, et il n'est autre que le créateur du monstre sans nom que nous connaissons tous. Quant à l'histoire de son abominable progéniture, vous seriez surpris d'apprendre qu'avant d'être un monstre fait de cadavres récupérés dans des salles de dissection et de devenir un meurtrier vengeur, il est un être sensible, intelligent, tout d'abord bienveillant et qui ne demande qu'à aimer et à être aimé. Bref, un être humain. J'aimerais vous raconter sa triste histoire et rétablir ainsi quelques vérités. Tout commence avec ce projet fou et terrifiant d'un savant suisse, le jeune Victor Frankenstein. Victor, jeune homme sympathique et brillant, veut créer un être humain parfait, beau, bon, un être suprême. Mais à la seconde où il donne vie à sa créature, Victor est pris de regret. Il réalise avoir engendré une aberration, un être contre nature. Il fuit sous les yeux implorants et terrifiés du monstre qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Le monstre est livré à lui-même et il va se heurter cruellement au regard et à la violence des hommes. Petit à petit, au gré des persécutions et des coups de bâton, il prend conscience de sa difformité, de son aspect repoussant et effrayant. Il trouve un jour un abri dans la dépendance abandonnée d'une petite maison habitée par un brave aveugle et ses deux enfants. En les observant pendant des mois, il apprend à parler. Il réalise aussi que l'homme peut être charitable, gentil. Empli de bienveillance à l'égard de cette famille pauvre qui le touche, il leur prodigue 1000 attentions qui les aideront à affronter l'hiver. Mais alors qu'il cherche un jour à approcher le vieillard aveugle, il est découvert par les deux enfants qui le chassent violemment. La douleur est insoutenable pour le mi-homme, mi-monstre. Il en veut à son créateur et à compter de ce jour, il n'aura de cesse de le poursuivre afin d'obtenir de lui une compagne. Ce que Frankenstein acceptera dans un premier temps avant de faire marche arrière et de détruire son œuvre. La vengeance de la créature est terrible. Il assassine de sang-froid le meilleur ami puis la jeune épouse de Victor, Elisabeth. À partir de là, s'ensuit une poursuite infernale entre le monstre et son géniteur. Frankenstein est résolu à mettre fin au jour de ce tueur maudit qu'il a engendré. Le livre s'achève avec la mort de Victor Frankenstein, qui est à bout de force. La créature, n'ayant plus de raison d'être, disparaît pour se donner la mort à son tour. Voici donc l'histoire triste et pathétique de Frankenstein et de sa progéniture mal aimée. Et finalement, c'est à se demander qui du créateur ou de la créature est le véritable monstre. Quoi qu'il en soit, jamais créature n'aura autant échappé à son créateur, tant le mythe a eu de cesse d'être adapté, ce qui explique aujourd'hui les nombreuses confusions autour de l'histoire et de ses personnages.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte l'heure H de Mary Shelley. Une histoire à vous glacer le sang. Un laboratoire rempli d'organes humains et d'animaux. Une créature morte qui revient à la vie. Je vous raconte ce moment où une jeune fille de 18 ans a tout réuni pour créer un des plus grands romans de science-fiction de tous les temps, Frankenstein, ou le Prométhée moderne. La version que l'on connaît aujourd'hui de Frankenstein n'est en fait pas tout à fait la même que celle que Marie a écrite sur les bords du lac Léman en 1816. Le livre a connu plusieurs vies et plusieurs réécritures depuis sa toute première publication. Il est d'abord publié une première fois en 1818, anonymement. Est-ce parce que le milieu littéraire est encore extrêmement misogyne ? L'auteur est une jeune fille de 20 ans, encore novice. Alors évidemment, ça n'aide pas. On sait en tout cas que le manuscrit de Marie a été rejeté par plusieurs éditeurs avant d'être enfin accepté par un éditeur spécialisé dans la littérature à sensation. Est-ce parce que ce dernier ignorait tout de l'identité de l'auteur qu'il a accepté de publier le roman ? Eh bien, l'histoire ne le dit pas. Mais une chose est sûre, L'anonymat n'a pu que renforcer le mystère autour de l'œuvre terrifiante de Mary Shelley. Quand le livre paraît enfin, il a tout du roman bon marché. Couverture grise, reliure de mauvaise qualité. Très vite, on attribue la paternité de l'ouvrage anonyme à Percy Shelley. Deux indices laissent à penser que c'est lui qui a écrit Frankenstein. Il en a signé la préface et le livre est dédié à William Godwin, le père de Mary, mais aussi l'ancien mentor de Percy, avant que celui-ci n'enlève sa fille. Quand on découvrira enfin le poteau rose, les critiques se déclareront déçus. Je cite « Il est dommage qu'une femme puisse être derrière cette histoire, effaçant par là de sa plume la douceur inhérente à son sexe. » On comprend mieux donc que Mary ait choisi l'anonymat. Même s'il subit son lot de critiques, très vite, le roman est un succès et 5 ans plus tard, Mary négociera une nouvelle édition avec un deuxième éditeur et, fait important, avec son nom, enfin, sur la couverture. Mais le livre ne sera pas signé Mary Godwin, il sera signé Mary Shelley. Vous l'avez deviné, Mary et Percy se sont entre-temps mariés. Un heureux dénouement pour le couple, pourtant terni par un événement tragique. Si Mary a pu épouser Percy, c'est parce que la femme de ce dernier s'est suicidée. La rumeur veut qu'elle soit tombée enceinte d'un autre homme et se serait jetée dans la Serpentine, le lac, qui traverse Hyde Park. Quoi qu'il en soit, Percy vient de faire de Mary, entre guillemets, une femme honnête, ce qui permet enfin à la jeune fille de se réconcilier avec son père et surtout de signer de son nom d'épouse la deuxième édition de Frankenstein. Elle écrira plus tard « Mon mari eut à cœur de me voir prouver que j'étais digne de mes parents » en inscrivant mon nom sur le livre d'or de la renommée. Et l'histoire de ce livre d'or ne s'arrête pas là. De nouvelles éditions suivront, encore en 1832 et à l'aube de la mort de Mary, en 1849. Dans cette dernière édition, le texte a été entièrement réécrit pour donner la version que nous connaissons aujourd'hui. Une version qui se trouve fortement influencée par la succession de tragédies que va encore traverser Mary. Nous l'avons évoqué tout à l'heure. Mary a entretenu toute sa vie une relation ambiguë avec la mort, qui lui a pris des êtres chers comme sa mère, son premier enfant, mais qui a aussi nourri son imagination et son œuvre. Cette obsession morbide va être exacerbée par la perte de 2 autres enfants. Elle va perdre sa petite fille, Clara, le 3e enfant qu'elle a eu avec Percy. Quelques mois plus tard, c'est son aîné, le petit William, qui est emporté par la malaria lors d'un séjour en Italie. Mary est anéantie et se réfugie de plus en plus dans l'écriture. Elle ne parviendra à remonter la pente qu'à la naissance de son 4e enfant, le petit Percy Florence, le seul qui lui survivra. Mais elle fait de nouveau une fausse couche, 3 ans plus tard. Elle perd tellement de sang qu'on craint pour sa vie. C'est son époux, Percy, qui lui sauve la vie in extremis en la plongeant dans un bain d'eau glacée. Et le malheur va continuer de s'acharner sur la jeune femme. Percy et un ami, accompagnés d'un jeune mousse, partent traverser le golfe de Livourne en Italie sur un petit voilier qu'ils ont construit. Quelques jours après leur départ, Mary reçoit une lettre écrite. « Chère Mary, j'espère que cette lettre vous trouve au mieux. Pardonnez mon empressement à vous demander si vous avez reçu des nouvelles de notre cher Percy. J'ai quelques raisons de m'inquiéter car son bateau n'est toujours pas arrivé à mon port. Vous m'avez pourtant assuré de sa présence ce soir à la réunion de notre cercle littéraire. Je vous prie, chère Mary, de me rassurer sur ce point en m'écrivant que notre ami est auprès de vous. Votre serviteur, Legge Hunt. » C'est ce même Legge Hunt, écrivain et ami du célèbre poète John Keats, qui, en compagnie de Lord Byron, identifiera le corps de Percy quelques jours plus tard sur une plage. Cette nouvelle perte est d'une violence inouïe pour Mary. Mais elle a un fils, dont elle doit assurer l'existence et l'éducation. Elle ne peut donc en aucun cas s'abandonner à la dépression. mais elle est profondément bouleversée par la perte de son époux. Percy n'a sans doute pas été le compagnon et le mari idéal. Il s'occupait peu d'elle, collectionnant les maîtresses et prônant l'amour libre dans ses poèmes qu'il dédiait à d'autres femmes. Sans doute, Marie a-t-elle fait semblant d'adhérer à ses principes, mais on devine à travers ses écrits qu'elle l'aimait profondément. Et c'est sans doute à contre-cœur qu'elle s'est résolue à prendre des amants et à fermer les yeux sur la vie dissolue de son mari. Marie écrira. Quand le vautour de mon chagrin s'endort un instant sur sa proie, sans que se relâche jamais l'étau de ses serres, cependant je me sens glisser dans une léthargie plus terrible encore que le désespoir. À la mort de Percy, Marie n'a que 25 ans. 25 années ponctuées de deuil. C'est sans doute cette succession de tragédies qui a permis à Marie de pousser aussi loin les thèmes de la mort, de la résurrection et de l'immortalité. Qui d'autre mieux qu'elle pouvait traduire auprès du lecteur les tourments et les émotions qui découlent de la perte d'un être cher qu'on souhaite à tout prix réanimer? Alors, Frankenstein ou le Prométhée moderne, est-ce vraiment une histoire d'horreur? Au début peut-être, mais finalement, lorsque l'on découvre la vie de Mary Shelley, le roman apparaît sous un nouveau jour. On comprend que c'est avant tout une histoire bouleversante, écrite par une femme plusieurs fois brisée, et qui résume en somme les souvenirs de son amour, de sa souffrance, de ses espoirs déchus et de sa solitude. J'ai d'ailleurs une anecdote à vous raconter sur cette femme que l'on croyait si libérale, mais qui au fond était profondément romantique. Mary Shelley meurt d'une tumeur cérébrale le 1er février 1851, à seulement 53 ans. Un an jour pour jour après la mort de sa mère, son fils Percy se rend dans sa chambre, sans doute dans l'idée de vider des armoires et de trier un peu ses papiers. Il respire le tissu de velours noir d'une robe que Marie portait depuis la mort de son père. Son odeur est encore là et le bouleverse. C'est comme si sa mère était tout près de lui. Percy s'assied devant le petit secrétaire vénitien en bois laqué de Marie. C'est sur ce bureau qu'elle a écrit ses derniers romans, la plupart fantastiques. Il ouvre les tiroirs, les uns après les autres, pour en sortir des cahiers de notes, des lettres, des factures. Soudain, en vidant un tiroir, il découvre que le fond de celui-ci bouge légèrement. Il comprend rapidement que le petit tiroir en cache un autre secret. Il parvient à ouvrir le double fond et fait alors une touchante découverte. Il semblerait que sa mère y ait caché ses précieuses reliques. Il y a là ce qu'il devine être les mèches de cheveux de ses frères et sœurs qu'il n'a pas connus. Des cheveux fins et doux, des cheveux d'ange. Il découvre le carnet de poésie et de notes que sa mère partageait avec son père, véritable symbole de leur complicité littéraire. Il découvre enfin un objet emballé dans un poème de son père, Adonaïs. Il lui faudra quelques secondes pour réaliser que cet objet n'est autre que le cœur de son père. Il se souvient alors de cette histoire que lui a racontée Lord Byron, l'ami de toujours. Quand les corps de son père et de ses compagnons de voyage ont été retrouvés sur la plage, 10 jours après le naufrage, Byron les a fait brûler à même la grève, comme il en était coutume en Italie. Une chose incroyable s'est alors produite. Byron et l'écrivain Leigh Hunt, autres amis de son père, présents ce jour-là, ont réalisé que le cœur de Percy ne brûlait pas. Aussi ont-ils emporté ce qu'il restait de leur ami pour le restituer à sa veuve, Marie. Un siècle plus tard, médecins et scientifiques évoqueront qu'une possible tuberculose a pu entraîner une calcification du cœur de Shelley. C'est ce cœur que Marie, femme pourtant malmenée et trompée, a conservé toute sa vie auprès d'elle, en souvenir de celui qu'elle avait éperdument aimé. Voilà donc pour ce récit que j'ai eu l'honneur de vous partager avec la complicité d'Adeline Drouin.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.